France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Edmond Dantès, bel ami Cyrano, Don Juan et Don César, Tartuffe, Bartolo et le comte Almaviva, François Genoux aussi, et tant d'autres, Jacques Weber, fou d'histoire.
Mesdames, Messieurs, le jury a décidé d'accorder un prix d'excellence. Veuillez appeler Monsieur Weber. Il vous a attribué à l'unanimité un prix d'excellence. Monsieur Huster.
Bravo, hein, Jacques Weber.
Ça commence toujours bien, c'est touchant.
1971.
Oui. C'est lointain. C'était l'époque d'ailleurs où les concours existaient, n'existent plus. Je n'exprime pas de regrets, hein, au contraire même, je pense que c'était tout à fait normal. Mais c'est vrai que ce concours, lorsque vous receviez en plus la récompense suprême, c'était très, très touchant.
Ça a changé une existence, une carrière, Jacques Weber. Quand on parle de ce monde-là, ce monde du théâtre, il y a tant et tant d'évolutions. C'est un monde baigné de traditions. On l'entend bien. Ces traditions, vous en étiez conscient quand vous avez commencé dans cette carrière?
Moi, j'étais... je pense que déjà, il y avait... comment dirais-je? Il y avait la tradition, et puis il y avait aussi l'avant-gardisme, et ô combien, et c'était tout à fait formidable, puisqu'en même temps, il se répandait non seulement dans le secteur du théâtre public, mais aussi dans le secteur du théâtre privé, ce qui était bien quand même. Il ne faut pas oublier que avant la mise en place des structures du théâtre public, le théâtre privé a fait un boulot formidable sur... soit UNESCO, Beckett et compagnie, j'en passe. Donc voilà, donc d'ailleurs, ça serait à réfléchir là-dessus, au lieu de toujours faire ces espèces de guerres très intestines comme ça. Mais c'est vrai que nous sommes un lieu de tradition, mais qui me rappelle toujours cette phrase que j'aime beaucoup, pour que l'arbre bourgeonne, il lui faut des racines. Et c'est très joli qu'il y ait une structure d'accueil entre guillemets traditionnel, en se méfiant de ce mot. Tradition, c'est pas l'immobilité, c'est au contraire une mobilité fixe, enfin attentive aux aguets. C'est ça qui est très très important. Et puis, faut rappeler aussi qu'il n'y a pas de tradition dans le théâtre occidental au sens propre du terme, mais il y a, disons, des habitudes, alors plus ou moins bonnes, des représentations symboliques plus ou moins belles, plus ou moins intéressantes. Et je pense qu'il faut sans arrêt les observer, parfois les respecter, parfois les transcender, parfois même les violenter, quoi, voilà.
J'aime beaucoup ce que vous dites là, hein, ce monde de l'avant-garde, parce que c'est du vivant, le théâtre. C'est là et c'est un moment éphémère. Et puis dans le même temps, il y a toujours ce passé qui est une toile de fond.
Ça ne peut être qu'éphémère et ça ne peut que aussi s'appuyer sur... Si vous voulez, ce qu'il y a de très très beau au théâtre, c'est un... C'est Coltès qui disait c'est l'endroit où tout est faux pour être vrai. Et aujourd'hui, on assiste d'ailleurs à une espèce de contre-champ tout à fait étrange, puisque le vrai, c'est-à-dire notre monde, devient lui totalement faux, produit du faux sans cesse. Et je trouve que ça, c'est intéressant, surtout lorsqu'on repense à cette notion du miroir, cette image inversée, ça me paraît assez intéressant. Mais c'est vrai que si le théâtre n'est pas explosif, rebelle, sauvage, proposant sans cesse des formes nouvelles, ne s'arrêtant jamais presque à la limite de l'essoufflement, provoquant même des zones d'ennui considérables, n'en ayant pas peur, et ben il serait mort, il serait totalement inerte. Et voilà, imaginez qu'on se soit figé au jeu des années 50. Et on jouerait encore très comme ça, et ça serait absolument épouvantable. Donc voilà, non, c'est un lieu, oui, comme on dit, le spectacle vivant, et j'aime beaucoup cette expression.
Et puis je mets de côté l'idée de tradition, pour prendre peut-être l'idée d'émotion que les comédiens, les comédiennes peuvent connaître, c'est-à-dire ce passage, par exemple, où l'on quitte ce qui n'est pas visible par le public et où l'on arrive sur scène. Mais ça, c'est un intemporel, cette petite émotion. émotion qui doit surgir ici?
C'est un mystère absolu, c'est un moment que l'on déteste totalement et pourtant on y revient tout, à chacun à heure fixe. C'est Jouvet qui disait le théâtre est un art qui s'exerce à heure fixe, et cette heure fixe est considérable. Mais moi je sais que, puisque vous parlez de cette émotion, en effet, cette émotion et cette tension, la tension compresse l'émotion, la rend presque insoutenable et naturellement, lorsque la porte s'ouvre vers la scène, bah, elle se dévait. Enfin, et si vous voulez, il y a ce mot émotion. Sans doute le plus grand poète du théâtre du XXe siècle, de la vie de tous ses pairs et de la vie d'énormément de gens qui ont vu ses spectacles, Klaus Michael Gruber, disait le théâtre, c'est avant tout l'émotion. Et devenant de sa part, l'émotion prenait un sens absolument considérable. Mais c'est toujours aussi très dangereux ce genre de mots. C'est comme l'important est de plaire de Molière a été chapardé par des espèces d'imbéciles qui ne comprenaient rien, qui confrontaient toujours faire le beau pour plaire. Alors que c'était absolument l'inverse qui était proposé par Molière.
Avec ce moment théâtre, qui est un moment extraordinaire, hein, on le sait bien. Et il y a cette force, et ce qui explique hein, ce succès du théâtre toujours, même si il est présenté comme un monde mis à mal avec la concurrence d'autres choses, ce moment théâtre est unique. Et c'est sans doute pour ça qu'il est toujours là et qu'il fascine toujours autant. C'est pas reproductible.
Oui, et il faut pas oublier, c'est amusant, je connais mal cette période, je ne suis justement pas un historien, mais puisque nous sommes dans on parle autour de l'histoire, je crois savoir que les premiers lieux interdits de la Révolution française ont été les théâtres par peur de résurgence monarchiste, c'est vous dire à quel point ils sont considérés comme des lieux indépendants. On ne peut pas l'atteindre au fond, même si on interdit la pièce, ça va créer des scandales. Et je pense que c'est un lieu fondamental. Ça me rappelle un peu, bien que je sois très très éloigné définitivement de toute forme de religion, de toute forme d'église, mais lorsque j'étais petit, j'étais très fasciné par la petite lanterne rouge qui indiquait soi-disant que le bon Dieu était là. Enfin, je schématise.
Vous schématisez. Je schématise. Mais on voit bien le tabernacle, enfin, l'église,
voilà,
etc.
Jésus était là, ou je sais pas quoi, pour la présence du Saint-Esprit ou autre bêtise du même truc. Enfin non, pas bêtise, mais enfin bon. Bref. Et pour moi, le théâtre, c'est ça. C'est une espèce de lanterne allumée, vive, qui est là et qui réveille, qui interroge, qui est présente. On ne la lui fait pas au théâtre. Et ça, c'est un lieu absolu de liberté. Il faut toujours s'en rappeler lorsqu'on rentre en scène.
Avec le possible qui peut surgir à tout moment, parce que au cinéma, la surprise pour le spectateur, c'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire.
Vous savez, Jouvet disait, au théâtre on joue, au cinéma on a joué. C'est merveilleux. C'est pour l'acteur, c'est formidable. Et c'est d'ailleurs tout le débat extrêmement complexe qu'il peut y avoir entre le metteur en scène et l'acteur. L'acteur a besoin qu'à un moment donné, à l'intérieur d'une structure extrêmement préétablie avec le metteur en scène, son état sauvage puisse s'exprimer forcément différemment tous les soirs. Il ne faut pas chercher forcément la différence, mais forcément c'est différent. Et parfois, il y a des metteurs en scène qui vous prennent pour des porte-manteaux. J'ai jamais vu un grand metteur en scène vous prendre pour un porte-manteau. Jamais. Jamais. Il vous structure. J'ai remarqué que les grands débats d'ordre dramaturgique qui nous nourrissent aussi se passent avant, après. Comme disait Strehler, tu joues d'abord, on parle après. Ou on parle avant. Oui. C'est tout. Mais après, au moment où on est sur le plateau, c'est organique, c'est physique, quoi.
Avec une comparaison qui nous a conduit jusqu'à l'église, Jacques Weber, ce qui n'est pas du tout surréaliste.
Mais en même temps, non.
Il y a un public, il y a une scène, il y a un personnage.
Et puis il y a la spiritualité, hein, c'est évident, hein, c'est pas un hasard non plus. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais lorsqu'on est, vous savez, il y a un mot qu'on emploie souvent, d'ailleurs parfois un peu trop, mais l'état de grâce. C'est quelque chose qui existe au théâtre et c'est très 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 mystérieux. Et il y a des fois où vous êtes dans un, comment dirais-je, dans un autre temps, dans un autre espace qui n'est pas sans rappeler l'espace du questionnement. Alors, sans identité, moi je n'ai pas de repère religieux du tout. Enfin, je n'en veux plus exactement, parce que j'en ai trop pâti étant enfant. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'immanence qui est là, qui travaille, qui emmène votre voix, qui vous prend en main. Je sais pas comment expliquer ça.
Mais vous avez évoqué l'idée de temps, et faire de l'histoire, c'est travailler sur le temps au cinéma. Quel art sublime, hein, le cinéma. Oui. On le sait bien, mais oui. Le film fait devient archive au sens où il ne bouge plus. Tandis que la pièce de théâtre, chaque soir, elle est nouvelle, elle est réinventée. Et étonnamment, elle ne laisse pas de traces. Parce que, ben, on l'a tous vécu, hein, quand on parle, on dit, mais j'ai été voir cette pièce par le passé. Oh, t'aurais dû y aller, mais c'est trop tard, elle n'existe plus. Il y a ça aussi
c'est
dans
ce
le théâtre.
C'est ce qui fait son charme et sa beauté, quoi. C'est son absolue absence de pérennité, quoi. C'est ça qui est magnifique, c'est que ça a disparu. C'est le miracle, c'est fait, mais après tout, c'est aussi le mouvement de la vie. Hein, elle est là, elle se présente, elle est belle. Il y a aussi bien des coquelicots que des guerres et des meurtres, et puis, chut, elle fout le camp. C'est ouais. Fini, et c'est totalement disparu. Vous avez des gens dont la mémoire existe encore quelques années, que ce soit vos proches ou des célébrités qui ont pu vous toucher. Puis petit à petit, ça se dilue. Moi, par exemple, c'est une chose qui me frappe énormément. Pour moi, l'ange de mon métier était Gérard Philippe. Mon papa de théâtre était Pierre Brasseur. Mon idole était Gabin ou Michel Simon. Ce sont des noms qui ne disent plus rien du tout aux générations que je croise très souvent. C'est très frappant, c'est totalement effacé par le long fleuve pas tranquille, intranquille, comme disait Pessoa, enfin, son traducteur. C'est drôle, c'est intéressant tout ça. Oui.
Mais j'aime beaucoup que vous évoquiez ces grands noms, parce que cette histoire-là du théâtre s'écrit avec tant et tant de noms, et on pourrait les citer. Ça, c'est constitutif aussi de votre démarche. Quand on a un Jacques Weber jeune, on a évoqué ce prix d'excellence au conservatoire, il y a la volonté de s'inscrire dans les pas des grands, comme des modèles, Pierre Brasseur notamment.
Je ne sais pas s'il y a la volonté de le... On est forcément tenté de le ressembler. Brasseur disait, me faisait tellement rire, « Mais moi, je suis de la merde, j'imite Berry. » Je parle naturellement du grand Jules Berry, je ne parle pas des autres. Et Jules Berry, par exemple, avait un jeu de manchettes. C'est lui qui a inventé le déboutonnage des manchettes et de retrousser sa manchette de chemise sur sa veste. Et c'était d'une très grande élégance. Et Brasseur refaisait la même chose. Et il y avait cette espèce de mimétisme, cette transmission comme ça mimétique qui était là. Et moi, c'est vrai que Florent avait inventé, François Florent, mon professeur, avait inventé ce terme. Fais attention, Jacques, tu brasserises. C'était parce que j'ai vu Florent tout au long de ma carrière. Et brasseriser, ça veut dire que quand je suis pas dans une forme optimum et que je fais pas attention, je fais un peu du brasseur.
Et vous en
rendez compte? Moi, je joue un peu comme ça.
Ah oui, je me rends. Encore aujourd'hui, parfois, vous dites je brasserise.
Franchement, non, avec l'âge, où ça s'agit. Et on retrouve cette autre vérité intangible qui se résume très bien par une phrase merveilleuse d'un professeur qui était tu commenceras à bien jouer, à être, lorsque tu auras les mains en bas. Ça m'avait frappé. Les mains en bas, c'est-à-dire, je suis là. Et là, on revient à une forme de philosophie, quoi. Il ne s'agit que d'être, au fond. Un peu, c'est presque bouddhique. C'est presque... ça ne bouge plus. Rien. On se laisse... On est poreux, hein, n'est-ce pas, sur le plan physique, physiologique. Et on se laisse traverser. Et ces traverses permanentes, on exprime, on joue, et on chante. Voilà, c'est très intéressant.
Ici, l'aspect métaphysique, hein, spirituel, avec un prénom que vous avez donné à Monsieur Florent, c'est François Florent, le court Florent, parce qu'on
le
connaît
court,
par
oui,
le court
oui,
Florent.
Le court,
vous l'avez connu, vous, avant la création du
moi,
court.
Moi, j'étais l'un des tout premiers élèves avec Francis Huster, et puis après Sabine Azéma, Catherine Ferrand, etc. Et c'était le court municipal du 17e arrondissement qui se faisait dans la classe de français dans lequel j'étais au lycée en classe de 4e, puisque j'ai commencé les cours d'art dramatique, j'étais en 4e, donc j'étais un gamin. Et c'était au lycée Carnot, et voilà, et on payait 37 francs par an. Voilà. Et on faisait la queue devant un monument aux morts, je me souviens, ça me frappait beaucoup. de mômes de 18, 19 ans qui avaient été fusillés par les Allemands. C'est une chose qui me frappait toujours avant d'entrer dans le cours de français ou dans le cours d'art dramatique.
Et c'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est toujours cette réflexion sur la mémoire, cette trace qui reste venant du passé, que ce soit ces grands noms d'acteurs, que ce soit ces jeunes gens.
Vous savez, c'est très frappant parce que au fond, je me souviens, moi, c'est un des cinéastes, et je pense que vous êtes pareil, vous êtes comme moi, que j'admire le plus, c'est Kurosawa, bon, qui a dit une chose que tout le monde a dit, mais enfin, un jour, c'était en exergue, je crois, sur un de ses films, créer, c'est se souvenir. Et en fait, c'est quand on réfléchit bien, c'est vraiment que ça. C'est le passé qui nous abreuve, c'est mille et une choses qui nous ont surpris, touchés, et qui, à un moment, s'injectent dans votre travail. Et ça, aucun metteur en scène ne peut approcher ça.
C'est tellement difficile, en plus, avec des rôles de personnages ayant existé de manière réelle dans le passé, ou alors placés dans un univers passé.
C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux de penser biopic. Car même si on prend le calque le plus exact qui soit, même si on fait les enquêtes les plus précises qui soient, jamais la reproduction est exacte. Ça, c'est presque scientifique. C'est les scientifiques qui vous apprennent ça. Ce n'est pas possible. Donc, je me demande si c'est réellement intéressant. Même si il y a des performances qui m'ont absolument touché. Je pense, puisque je joue genou à Bruno Ganz dans Hitler, c'était assez exceptionnel. Ou Marion Cotillard dans Piaf, etc. Enfin, il y en a eu beaucoup, des gens qui ont fait ces choses-là. Je ne suis pas sûr que ça me passionne énormément. Ce qui, moi, me passionne, c'est le décalage absolu d'un génie comme Piala, qui met Dutronc, qui a à voir avec Van Gogh, comme moi j'ai à voir avec, je sais pas qui, avec Chirona.
Toulouse-Lautrec.
Et c'est magnifique, parce que ce qui joue pour le public, c'est l'apparition du titre, la thématique qui vous est donnée, et devant, vous voyez une sorte d'anonymat génial, extrêmement contemporain, qu'était Dutronc. Dutronc, c'était cette chose presque invisible, et à force de l'être, on ne peut plus présent. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, je m'exprimais un peu pas très bien. Mais je pense que c'est un immense interprète de notre septième art, Dutronc.
Oui.
Car il représentait à lui tout seul toute une époque. Quoi.
Oui, parce qu'ici, il y a cette volonté aussi de dire quelque chose, d'incarner quelque chose. C'est le moment théâtre. Vous avez évoqué Jacques Weber, François Genoux, que vous incarnez, c'est l'injuste, cette pièce, au Théâtre de la Renaissance. Mais quand vous parlez de Van Gogh ou d'Hitler, ce sont des personnages que l'on cerne à peu près.
À peu près.
Voilà. François Genoux, beaucoup moins. Et alors là, c'est très intéressant. Vous le connaissiez, vous, François Genoux,
moi,
avant?
Pas du tout. Et à un moment, on me dit, mais est-ce que tu connais ce personnage? Et alors, naturellement, je dis, on tape sur Wikipédia, toujours pareil, les
classiques.
Et dans ce cas-là, c'est passionnant. Je tombe sur un interview, son dernier, je crois, enfin d'ailleurs celui qu'il avait voulu. Et là, je tombe des nues. Je dis, mais c'est absolument invraisemblable, puisqu'il raconte exactement qui il est, ce qu'il pense, quelle est son idéologie, etc. Et tout ça avec un calme olympien. C'est un homme maigre, extrêmement émacié, très précis dans sa diction, etc. Et naturellement, c'est à 10 000 kilomètres de moi. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'était pas question, d'ailleurs, ça aurait servi à rien, puisque personne ne le connaît, de reproduire à l'envi Genoux. Ce qui était très intéressant, c'est qu'une nature comme la mienne, qui peut paraître à première vue bonhomme, un peu comme ça, vaste, généreuse, etc., s'empare d'une langue, d'une pensée qui est le contraire de la générosité, qui est extrêmement intelligente, qui est extrêmement fine, mais qui a quelque chose de résolument acide, qui, et ça, c'est mon métier, quoi. Voilà, et cette opposition est intéressante.
Oui, parce qu'avec François Genoux, il y a de la haine.
À l'époque, vous aviez déjà lu des choses de lui?
Oh, j'ai...
Vous avez lu Mein Kampf?
J'ai lu Mein Kampf à cette époque. Tout ça, ça m'a beaucoup compris. C'est vraiment tout à fait remarquable. Je ne peux pas changer maintenant en me disant « Ah, mais il n'aurait pas dû ci, il n'aurait pas dû ça. » Tout à fait, effectivement, il était influencé par les idées de l'époque, mais la réalité, à mon avis, c'est lui qui a tracé les voies de ce que pourrait être le monde avec le respect de la nature. Tout ça, il y a tout ça chez lui.
Le totalitarisme nazi, auquel M. Genoux croit toujours, a poussé cet amour de la nature jusqu'au mythe de la race aryenne. Que dit François Genoux du racisme et de l'antisémitisme?
Est-ce que vous aviez épousé les idées du national-socialisme, y compris à l'égard des juifs, à cette époque-là?
J'ai toujours été assez préservé sur cette histoire des juifs.
Oui, ça, c'est une phrase qu'il y a
dans la pièce.
Mais est-ce que vous avez vu, pardonnez-moi, mais ça m'a rappelé merveilleusement le film sublime de Zone d'intérêt. Oui. Au début de l'interview, il y a des chants d'oiseaux. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est ça qui est très intéressant parfois. C'est qu'au-delà même des termes qui sont employés, il y a derrière une autre... Enfin, vous avez entendu, moi, ça m'a totalement frappé. C'est formidable, ça. Et ça, il faudrait que les gens, quand ils travaillent des interviews et tout, ils pensent à ça, à ces arrière-plans sonores qui donnent un truc, mais incroyable. Les chants d'oiseaux sont sublimes derrière. Et il est là, il dit, oui, Mein Kampf, c'est sans doute ça qui aurait créé un monde nouveau. Et ça, cette espèce de dichotomie, c'est fou, quoi.
Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'interview par Pierre Péan de François Genoux. François Genoux, ben oui, un homme milliardaire suisse qui a revendiqué son nazisme toute sa vie.
Qui a été très frappé par ce que Péan dit dans son bouquin, par l'injustice de Sacco Vanzetti, que le seul qui est défendu, c'était Benito Mussolini, et que ça l'a marqué étant jeune. C'est très curieux, cette histoire. Je me souviens vaguement qu'il en parle de ça, Péan. Et donc, il est bien évident que lui aussi a une enfance qui pourrait expliquer certaines choses. Enfin, comme dirait l'autre, Hitler a peut-être eu une enfance malheureuse, c'est pas pour ça qu'il faut l'expliquer. Voilà,
ça ne justifie rien, vous avez raison. Des enfances malheureuses, on en trouverait plein.
Ça ne justifie rien, absolument rien. Mais en tout cas, pour ce qui est de le jouer, je pense, enfin, moi j'ai toujours eu cette réaction lorsque j'ai joué des très grands personnages, parce qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le fait de jouer François Genoux ou jouer le roi Lear. Voilà, ça c'est très important. C'est pas moi qui contextualise, c'est le fait de jouer François Genoux maintenant, mais moi quand je me retrouve avec un texte, une situation qui, elle, est totalement fictionnelle, voilà, je fais le même travail que lorsque joue le roi Lear. Alors, le roi Lear appartient à une légende du Moyen-Âge, mais elle est reprise en compte par un homme du XVIe siècle. Enfin, c'est quand même... Je pense qu'il n'y a pas... Alors, je vais surprendre beaucoup de gens, et je méfie un petit peu de ce que je dis, mais la notion de personnage est très complexe, et j'ai presque envie de dire qu'il ne faut pas qu'elle existe. C'est Jean-Pierre Vincent, qui était un des plus grands d'acteurs que j'ai vu dans ma vie, qui disait ça. Ils disent d'abord, mettez une situation les unes au bout des autres. Et elle est au fond de cette situation. Et donc, elle est forcément au fond presque quasi lexical de la lecture du texte. Et là apparaîtra le fameux un autre, l'autre qui n'a rien à voir avec la réalité de François Genoux, ou la réalité de virtuelle du roi Lear, ou la réalité des écoles, des profs de français qui vous disent le misanthrope c'est ça et pas autre chose. Il n'y a rien de plus crétin que de dire ça. Ce qu'il faut, c'est ouvrir le questionnement sur le misanthrope. Mais ne pas dire, la trabilière amoureux et le mec qui se révolte. Surtout ne rien définir définitivement. Justement, le théâtre condamne la certitude et transcende le questionnement nécessaire. Ça ferait beaucoup de bien à nos hommes politiques de réfléchir à cette question, surtout en ce moment.
Jacques Weber, ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire pour l'acteur, l'actrice, de lire 5 biographies du personnage,
voilà,
de connaître
leur histoire. Ça aussi, c'est discutable, parce que certains en ont vraiment besoin. Donc, je le respecte totalement, et puis tant mieux pour eux, parce que ça les nourrit. Ça les nourrit merveilleusement. Moi, j'ai presque envie de dire que le rêve me nourrit beaucoup. Peut-être presque trop, il prend une importance parfois, qui m'amène, on pourrait le dire, à une forme de fainéantise, et après tout, pourquoi pas, je flâne énormément, avec le peu que j'ai, avec le peu d'infos que j'ai, avec par contre un gros bagage d'observation. C'est-à-dire le moindre détail me frappe dans la forêt, dans les arbres, dans les oiseaux, dans les gens qui courent tous désormais enfermés dans leur téléphone. Donc, pourquoi il court? Enfin, à part de poids, parce que le mec leur a dit qu'il faut courir tous les jours 10 000 pas. Mais enfin, on est où? J'ai entendu des mecs parler du CAC 40 tout en courant. C'est catastrophique, c'est la fin du monde. Ça, c'est la fin du monde. Enfin bon, bref, je m'écarte. Mais c'est le rêve qui me nourrit. Mais Jouvet, un jour, avait fait à un gars, son élève lui avait dit, maître, c'est très compliqué. Alors, tu vas lire ça, tu vas lire ça, tu vas lire ça. Et il lui donne une tonne de livres à lire sur Tartuffe. Et le gars revient, il passe la scène, il dit, alors tu as vu, ça ne te sert à rien. Et c'est vrai, le rapport de connaissance est très 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 complexe. Ce que je sais, c'est que forcément ça vous nourrit, si un dramaturge suffisamment fort vous parle merveilleusement bien d'une époque, d'une histoire, de ce qui charge, ça vous charge. Mais au moment où on joue, c'est-à-dire où j'arrive, où je fais mon travail d'artisan, de mec physique, je n'ai jamais vu un grand metteur en scène ne pas être concret. Tout redevient concret. C'est-à-dire, il s'agit de prendre son verre comme ça, parce que dans la vie, on le prend comme ça et pas comme ça. De ralentir très légèrement le geste réaliste. De prendre, voilà. C'est très très concret, que ça soit avec Stein, avec Vincent, avec Lavaudan, avec tout le monde. C'est très important.
Et puis le travail de lire toutes les biographies du personnage, ben c'est le boulot aussi des auteurs et des autrices de la pièce qui...
Alors, et des dramaturges. Et des dramaturges. Le n'est pas une invention diabolique et crétine, comme le disent certaines personnes. C'est magnifique. C'est un homme qui vous accompagne avec l'histoire, qui est d'un seul coup... Parce que il y a des détails dans l'histoire qui peuvent nous toucher. L'analyse historique globale ne me touchera peut-être pas. Elle me touchera en tant qu'homme. Et elle pénétrera, et tout compte. Je disais l'autre jour, mais c'est vrai, le petit chat, le petit chat qu'on appelait Shakespeare, qu'on appelait Villard,
oui.
Lapsus intéressant, parce qu'il traversait la cour du Palais des Papes. Quand vous allez entrer en scène, moi je me souviens, je rentrais en scène dans Tu te prends pour qui, dans l'architecture de Pascal Rambert, 3 heures de scène, la cour du Palais des Papes, là, Avignon et tout. Mais avant de jouer, il y a un petit chat qui vient nous voir dans les coulisses, qui nous regarde et tout, et puis après on le voit, qui traverse la scène. Et ben ce petit phénomène minuscule, forcément, travaille sur votre interprétation, forcément la bouge légèrement, de façon infinitésimale, mais tout est infinitésimal au départ. Hein, tout est cellulaire, quoi. Et donc, ça, c'est ça qui me fascine, moi, dans mon métier.
Ah oui.
Tout compte. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, notre rencard de ce matin, eh ben, il compte.
Ah oui, ça veut dire.
Il va compter énormément.
Ah, je suis fasciné
parce que j'ai entendu les petits oiseaux, là, par exemple, et puis d'autres choses qu'on a dites ensemble et que j'ai découvert en parlant avec vous.
Dans L'Injuste, cette pièce, vous êtes dans un bunker. Il n'y a pas un son. Et c'est intéressant aussi de se dire que les oiseaux, vous les faites entendre à travers des vidéos, parce qu'on a la vidéo, donc on ne les entend pas, mais on sait qu'ils sont là, puisque le bunker est dans la forêt. Ouais. C'est aussi ça, le théâtre. C'est créer tout cet univers qui va au-delà de la scène, par des mots, par des postures, par cet environnement gigantesque qui entoure juste ce qui se passe là sous nos yeux.
Oui, je pense toujours que le metteur en scène, ce qui n'est pas forcément le cas dans L'Injuste d'ailleurs, est avant tout un poète. Voilà. Et la poésie, comment la définir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est tenté par la plus juste des harmonies de ce qu'on appelle la nature. Et dans la nature, il y a les hommes, il y a les petits oiseaux.
Oui, et puis il y a l'ensemble, et puis il y a ce travail d'équipe, parce que c'est vrai qu'on parle...
Ah oui, oui, ça, alors là, important. Je tiens à le dire, à un moment donné, on dit Jacques Weber dans L'Injuste, mais Jacques Weber dans L'Injuste, il est pas tout seul, et dans n'importe quelle pièce, même dans un monologue, c'est toujours une... on n'est jamais seul. C'est pour ça que j'aime pas la phrase de Cyrano, que j'ai pourtant joué si souvent, je la trouve un peu niaise, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Je la trouve épouvantablement cocardière, pour pas dire autre chose, oui.
Voilà, c'est pourquoi je dis que dans L'Injuste, vous êtes aux côtés d'Élodie Navarre et que cette pièce, vu que nous parlons des auteurs, c'est Alexandre Amiet, Yaël Berdugo, Jean-Philippe Daguerre et Alexis Kébas. Et que cette mise en scène, c'est Julien Sbire. Parce que il y a tout cela, c'est un travail d'équipe complet pour donner à la fin ce moment que vous offrez aux spectateurs et aux spectatrices avec ces rôles importants, les metteurs en scène. Vous l'avez déjà cité, Georges Lavaudan.
Le Roi Lear, oui, c'est une pièce un peu fétiche pour moi, parce que lorsque j'ai démarré à Grenoble, immédiatement après Lorenzaccio, c'est le second classique que j'ai monté, c'était dans les années 70. Ensuite, j'ai refabriqué une seconde version lorsque je suis arrivé à l'Odéon en 96. Et puis, voilà, là maintenant, c'est l'aventure avec Jacques pour une troisième version. On a toujours le sentiment que on réussit, on se rend compte qu'il y a des passages qu'on ne réussit pas, parce que c'est ce que j'ai appelé, ce sont des pièces mondes. C'est-à-dire, c'est une pièce où vous dites pas, tiens, le thème, c'est ça. C'est des thèmes où tout s'entremêle, c'est-à-dire le droit, la guerre, le sexe, la violence, la bâtardise, la stratégie, les jeux de mots. Ça part comme du Shakespeare, ça termine comme du Beckett. Et avec Jacques, lorsqu'on l'évoque, c'est comme, on l'a dit, c'est comme d'escalader l'Himalaya en pantoufles, en sherpa, partant de brouillard, quoi.
Ça vous fait rigoler.
C'est moi qui lui avais dit ça, oui, en espadrille, oui. Oui, oui, la Vaudan, c'est magnifique parce que c'est un être silencieux. Et le silence compte énormément dans sa façon de vous faire travailler, au fond. Et j'ai remarqué ça aussi chez de très grands personnages comme Françon, comme tout ça. Le silence est beaucoup plus fort que les raisonnements ou la parole. Et puis de temps en temps, ils interviennent, mais on a l'impression qu'ils déplacent un meuble de 2 cm, même pas, et tout change, quoi. Ça, c'est comme on peut déplacer un mot ou qu'on demande de réarticuler mieux un mot. J'ai fait un travail merveilleux avec La Vaudan. J'ai appris énormément de choses. Et puis, je vais vous dire une chose, il y a des choses totalement, comment dirais-je, irrationnelles, qui sont du domaine de l'affectif, de l'amoureux. D'être amoureux de son metteur en scène, c'est magnifique, parce que ça crée quelque chose, ça crée une émotion qui est déjà là, qui est déjà palpable, qui, on a envie on a envie d'être aimé par lui, donc ça joue dans l'interprétation aussi, même si ça vous paraît extérieur au Roi Lear. Je sais pas comment expliquer ça, mais lorsqu'un type comme Gruber vous dit à propos du hélas racinien, le hélas, vous avez la chance, vous les Français, vous avez le mot hélas dans Racine, c'est un souffle sur une plaie. Mais attendez, là vous êtes complètement traversé, transpercé, et il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Forcément, ça va faire travailler 50, 60, 70 vers, 80 vers, puis après il va falloir retrouver une autre phrase, une autre stigmatisation, voilà.
Oui, c'est ça, parce que on voit que ces pièces, il faut les tenir, elles sont gigantesques, de tension. Oh, ben, c'est pas rien, quand même.
C'est mon domaine. Ça, c'est...
Ah, c'est vrai.
Non, mais je veux dire, par là, c'est mon domaine, c'est-à-dire, ça, c'est à moi de m'en occuper.
Ah, ouais.
C'est faire gaffe, c'est travailler, c'est pas faire le fou, c'est dormir, c'est... Oui, non, faut faire très attention. Je parle du Roi Lear. Sur l'injuste, la durée est beaucoup plus courte. Il faut simplement faire attention dans l'injuste à rester extrêmement concentré. Car comme c'est une espèce de dialogue entre une intervieweuse et un interviewé, on peut saloniser, si vous voulez. C'est-à-dire, comme on est là, très très aimable entre nous, on se parle. Mais si vous le sentez, il y a beaucoup de relief dans notre discussion. Mais parfois, lorsqu'on reproduit la discussion au théâtre, il faut faire très attention à ne pas oublier ses reliefs et ses coups de bélier.
Oui, on le sent bien dans L'Injuste avec Élodie Navarre. Il y a cette tension qui est palpable, qui disparaît parfois, mais en fait, elle est toujours là. On ne la ressent plus. Voilà. Et puis, elle revient. C'est un face-à-face. Et c'est fascinant parce que il y a ici, pour nous spectateurs, quelque chose qui se noue et on sent la tension. On a envie d'aller toujours plus loin parce qu'il n'y a qu'un truc. Il y a un truc. Et on ne va pas en parler aujourd'hui, bien sûr. Mais c'est là, quoi. Et puis, vous avez parlé d'amour, Jacques Weber. Et dans le cas de François Genoux, ce milliardaire richissime suisse qui dispose des droits d'auteur d'Adolf Hitler, entre autres, et de Goebbels, qui a été toujours nazi toute sa vie, et il est mort en 1996 nazi, vous montrez cet amour qu'il a pour Hitler. Et là, on touche à l'impalpable, parce que justifier un choix idéologique, ça se fait par des mots et des arguments. Mais là, il y a un truc, il est amoureux d'Hitler. On ne sait pas pourquoi.
Il le dit.
Ouais.
Il dit, j'ai vu un regard, il parle comme d'un coup de foudre. Et vous connaissez la blague sur le coup de foudre. Croyez-vous au coup de foudre ? Non, pas du tout. Alors vous me permettrez de rester encore un peu. c'est une, un film anglais magnifique avec Sean Lofton. Mais c'est vrai que oui, il s'agit d'une emprise amoureuse. Et je crois que ça, c'est très, très, très frappant. Quand on voit les espèces de déglingués qu'il y a autour de Trump, il y a quelque chose de l'ordre du coup de foudre, de l'amour, quoi. Donc il faut se méfier sur le terme de l'amour.
Non, puis avec...
Ça n'appartient pas qu'à Racine, c'est ça que je veux
exactement.
Dire.
Exactement. Voilà, c'est voilà. Ça. Non, François Genoux, qui, jeune homme, rencontre Hitler et tombe amoureux. Ouais. Et puis au moment de vous emparer de ce rôle, l'injuste, Jacques Weber, sachant que François Genoux, après la Seconde Guerre mondiale, a continué à bien œuvrer pour défendre les nazis ensuite, mais pas seulement. Et il a œuvré aussi dans les mouvements nationalistes. On parlait de terrorisme arabe. Ce qui fait qu'en écho à l'actualité du jour, on pourrait penser que c'était ça qui était le plus au cœur de l'actualité du jour. Mais avec ce qui se passe aux États-Unis, on sent que les deux actualités se croisent, c'est-à-dire un renouveau de propos nazis et puis ce qui se passe au Moyen-Orient.
Alors là, vous touchez vraiment le... Comment dire, c'est la fission nucléaire, c'est le cœur de la centrale. Et c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup hésité. Parce qu'à un moment donné, il faut être très 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 prudent sur tous ces terrains-là. Mais c'est évident que coller définitivement dans le mal absolu la défense des territoires palestiniens, c'est, disons-le carrément, c'est excessif. Voilà. Et je pense qu'il y a un dialogue à avoir permanent. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si l'injuste et avec un bon escient commence par l'évocation des accords d'Oslo, où là, quand même, Rabin, si mes souvenirs sont bons, reconnaît Arafat. Enfin, bon, voilà. Et donc, c'est quand même ça, c'est quand même un moment de respiration merveilleux, un espoir. Donc, on se dit que c'est encore possible et qu'il ne faut pas rester sur cette crête enflammée, volcanique, où en ce moment, on ne peut plus parler de rien. La moindre petite défense du drame effroyable que vit, par exemple, le Gaza est pris tout de suite pour une forme d'antisémitisme. Bon, voilà, soyons clairs. Et tout ça m'a vraiment à compter dans ma réflexion parce que d'un seul coup, c'était un nazi qui faisait un plaidoyer plutôt clair sur la spoliation des terres palestiniennes. Je ne dis pas qu'il avait totalement raison, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est qu'il posait ce problème, en tout cas avec raison, voilà, de façon raisonnable plutôt. Donc, c'était très compliqué. Je trouvais qu'il y avait là une forme de perversité de langage, de situation qui me semblait complexe, voilà, très honnêtement. Et puis, comme vous avez absolument raison de le dire, maintenant tout se mélange. Tout se mélange entre l'actualité trumpisto-poutinienne et puis cet autre drame épouvantable qu'on vit en Israël et en Palestine. Et c'est vrai que finalement, cette conjonction des deux mondes a remis la pièce à sa place historique, c'est-à-dire au moment donc où on la cite, c'est-à-dire au moment d'Oslo, au moment où il y a encore un espoir. Et finalement, cette interrogation et cette mise au pilori de ce nazi, c'est une belle naïveté théâtrale. C'est quelque chose qui quand même dit. Qui espère, voilà. Je pense que c'est une pièce qui espère, qui n'est pas vengeresse. En tout cas, moi, je ne l'entends pas comme telle. Et si elle espère, c'est bien. Et si elle reste ouverte et interrogative, c'est bien.
Oui, parce que c'est vrai qu'elle commence par les accords d'Oslo en 1993. Oui. Cette poignée de main, Isaac Rabin et Yasser Arafat. Avec, c'est ça, toujours, hein, nous, on ne sait pas comment l'avenir va être. Donc, il y a ce mystère. En 1993, au moment de signer les accords d'Oslo, on ne savait pas non plus comment serait l'avenir, mais il y avait de l'espoir. Et comme il y a toujours un peu ce côté métaphysique au théâtre et spirituel et étonnant, voici venir Le Petit Chaperon Rouge.
Le petit chaperon rouge trottinait dans les grands bois. Quand soudain une ombre bouge, c'est un loup, un gros loup à l'œil sournois, qui se dit en voyant la gamine: j'ai besoin de vitamines, je vais faire un bon petit repas froid. Où allez-vous donc, fillette ? Lui demande le loup gourmand. Je vais porter une galette et un petit pot de beurre à ma mère grand qui habite cette maisonnette. Allez vite, mignonnette, et merci, merci pour le renseignement.
Tire, tire, tire la chevillette, tirez de votre lunette, chère.
Tandis qu'elle cueille des noisettes, il court vite chez la mère grand. Et d'un seul coup de fourchette, il avale presque toute la bonne maman. Pour la tête se fait une vinaigrette, mes chemises, bonnet, lunettes, puis se couche dans le lit en ricanant.
Tire, tire, tire la chevillette, tire la bobine, chère.
Elle entra dans la chaumière, s'écria en la voyant. Que vos bras sont longs, grand-mère.
C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant.
Que vos yeux, vos oreilles, vos molaires ont grandi, bonne grand-mère.
C'est pour mieux te manger, mon enfant.
Ah, tire, tire, tire la chevillette, tire la bobinette, chère rat. Mais le petit chaperon pas bête, se rappelant la fin de l'histoire, prit une grosse clé à molette et lui ferma soigneusement la mâchoire. Puis doucement au loup va grand colère. Je t'ai laissé manger grand-mère, mais pour moi ce n'est pas la même histoire. Le petit pot et la galette, c'est chaperon qui les mangera. Il faut toujours, ma grosse bête, se méfier d'un plus petit que soi.
Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobine de chéra.
Toama, c'est
oui,
Nadia
si on avait
Atman.
Mis cette chanson dans la dans le spectacle, dans la musique, je ne sais pas à quel moment,
ça aurait
créé un effet assez fort et très intéressant, un décalage poétique intéressant.
Et alors je poursuis le décalage, Jacques Weber, parce que cette chanson qui est chantée ici en 1948, vous l'avez peut-être entendue quand vous étiez jeune enfant, oui, vous étiez l'année suivante, a été écrite pour les paroles par Françoise Giroux, oui Françoise Giroux, la Françoise Giroux, journaliste, écrivaine, et la musique. C'est Louis Gastet, c'est le Loulou Gastet.
Loulou,
voilà, de Lynn Renault, avec l'évocation ici du petit chaperon rouge, parce que dans la pièce L'Injuste, il y a toute une réflexion autour des frères Grimm sur raconter l'histoire, dire l'histoire, et dire l'histoire de manière différente. Parce que le petit chaperon rouge ne se raconte pas de la même manière tout le temps, et ne termine pas de la même manière tout le temps. Et c'est un bel écho aussi à la manière de raconter l'histoire. C'est là où on se positionne qui permet aussi d'avoir un regard différent. Bon, là, dans L'Injuste, on est dans un bunker, on ne voit pas très loin.
On ne voit pas très loin. Non, mais ce qui est très intéressant, oui, c'est là que interviennent dans ce débat ce que peut-être les contes et légendes, puisqu'ils nous ont quand même énormément formatés étant enfants. Ça reste là. Je me souviens, il y avait une collection qui s'appelait Les Contes et Légendes quand j'étais gamin.
Contes et Légendes de Normandie.
C'est fou comme ça reste. La notion de vengeance, la notion de bien, de mal, comme ça. Tout ça reste très, très ancré. Et c'est amusant quand il parle de cette nuance entre deux versions genoux. Et là, il repose vraiment la question de, finalement, ce que peut être la... Comment dirais-je ? C'est, comme dirais-je autre, je ne sais plus, c'est dans Charlotte et son Jules, de Jean-Luc Godard, qui a l'important, c'est pas l'amour, c'est pas la guerre, c'est la nuance. C'est la nuance, et j'adore, c'est Belmondo avec sa voix, comme ça, c'est la nuance. Et c'est vrai que la nuance, hélas, nous échappe la plupart du temps. C'est-à-dire que notre connaissance est tout à fait, hormis les spécialistes, dont il faut aussi se méfier, car parfois ça les enferme totalement, mais je crois quand même que pour ce qui concerne l'histoire, ce sont des tout petits ajustements comme ça, qui sont le plus près de la réalité. Et que si on les décale, mais d'un millimètre, par exemple tout ce qui s'est dit sur la guerre d'Algérie, etc., c'est incroyable, hop, mais tout, tout sens se casse la figure. Enfin, et c'est vrai qu'il faut se méfier énormément, puisque j'entends de plus en plus sur les drames que nous connaissons des espèces, et moi-même je le fais sans doute, des espèces de pensées très généralistes. Finalement, nous avons des pulsions. D'ailleurs, je crois que c'est le drame, si je peux me permettre 3 secondes, de la démocratie. En ce moment, qui est-ce qui engendre les monstres ? C'est la démocratie, puisque c'est le vote. Mais qu'est-ce que le vote ? Contrairement à l'époque que j'ai pu connaître, bon, c'est que le vote est devenu pulsionnel et non plus... Nous, on s'appelait, on disait se faire une opinion. Je me souviens très bien de ce vocable et je le trouvais formidable. On construisait et on avait des points de repère. Il y avait les syndicats, il y avait le temps, il y avait beaucoup moins de journaux. On avait le temps de faire une opinion. Alors, c'était plus ou moins nuancé, mais elle était là. Là, maintenant, c'est je t'aime, je t'aime pas. Donc, on est dans très, très, très grand danger, car la pulsion et l'émotivité n'ont jamais mis en place des gens dignes de représenter un État. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, en Russie d'ailleurs.
Jacques Weber, dans L'Injuste, en incarnant François Genoux, c'est tout à fait cela, parce que François Genoux coche toutes les cases pour être détestable quand on regarde sur le papier, mais vous ne le rendez pas détestable. Et c'est ça qui ajoute cette complexité nécessaire. Et, on n'a peut-être pas envie de boire sa tisane, parce qu'il sert une tisane. Oui. On n'a peut-être pas envie de la boire, parce qu'elle n'a pas l'air formidable. Mais enfin, c'est un homme qui est affable, il a de la conversation.
Oui, mais c'est bien ça le grand danger. Et d'ailleurs, je pense que c'est extrêmement important qu'un acteur ne doit jamais prendre en charge son personnage avec une morale quelconque, ou une éthique quelconque. Non, ça n'existe pas. Il est le personnage et il rentre dans ce monde et dans sa logique, ce qui est d'ailleurs quasiment impossible. On ne peut pas atteindre la logique puisque, justement, le parcours de l'inconscient de tout individu est très, très illogique puisqu'on ne connaît pas, justement, ces fameuses toutes petites nuances de l'être. Alors, moi voilà, j'ai pas envie de le rendre sympathique non plus.
Non.
Simplement, je fais en sorte qu'il soit. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'il est ? Il n'est autre que moi, m'exprimant à travers un texte qui fait que je suis l'autre qui est proche de François Genoux. C'est très important ce que... Mais enfin, oui, c'est important d'être clair là-dessus, quoi, voilà.
Avec ici cet aspect du grand méchant loup qu'il incarne et l'évocation des contes et du petit chaperon rouge.
Alors je crois que justement, si je m'étais amusé à jouer le grand méchant loup, le mec de Dracula, j'ai un trou,
oui.
ça serait vraiment pas intéressant, quoi. Ça serait.
Ouais.
Au contraire, je trouve qu'il y a une bonhomie tranquille qu'on entend, là d'ailleurs, vous l'avez entendu dans l'interview. C'est un vieil homme, c'est un homme atteint. Et qui est là, non, je trouve que Maycomb, c'est vraiment intéressant. Et le poids de l'âge et de l'expérience ne le fait pas changer d'avis. C'est ça qui est encore plus effroyable, quoi.
Vous avez tout à fait raison de le dire, parce que qu'il se soit engagé auprès des nazis au moment de la guerre, ça c'est une chose, mais ça continue, et ça continue même tard, jusqu'au procès Barbie défendu par Jacques Vergès. Vergès, payé par on ne sait qui, serait-ce François Genoux.
En tant que responsable de la section 4, il était responsable, et dans tous les procès cela a été établi, de la lutte contre la résistance. C'est un homme qui n'a jamais servi dans la section anti-juive de sa vie. Et du point de vue de la résistance, c'est un homme qui a, malheureusement, puisque j'étais de l'autre bord, remporté un succès extraordinaire, un succès technique. C'est un homme qui arrive à la fin de l'année 42 à Lyon et qui, en juin, a provoqué l'arrestation du chef de l'armée secrète, le général de Lestrains, et a arrêté lui-même le président du Conseil national de la résistance, Jean Moulin. C'est malheureusement prodigieux.
Jacques Vergès.
C'est malheureusement prodigieux. Vous vous rendez compte, l'oxymore incroyable de l'audace de Vergès. Ceci étant dit, Vergès est incontestablement un très grand avocat. Moi, je l'ai même vu en spectacle. Je sais si je n'aime pas les avocats que vous voulez, d'autres qui se mettent en scène et à qui se prétendent comédiens. Mais Vergès, ça valait vraiment son pesant de bigorneau, comme on dit en Bretagne. C'était inimaginable, la présence forte et très, très intelligente de cet homme. Mais c'est effroyable, ce qu'il dit. C'est effroyable. Et oui, c'est Genoux qui a financé, qui a payé Maître Vergès. Ceci posé, alors moi, j'ai eu cette chance. J'ai acheté le fameux coffret de MK2, je crois, de tout le procès, enfin, presque le condensé du procès Barbie, les grands moments, entre autres la plaidoirie formidable de Roland Dumas, mais aussi celle de Vergès, bien sûr, et bien d'autres. Et c'est absolument troublant et terrible. Et c'est très formidable de la part d'Alexandre Amuel, donc Amuel qui a écrit la pièce, d'avoir amené d'un seul coup ce personnage qui fait par une seule fois. Mais Maître Vergès est mon ami. D'un seul coup dans la pièce, vous savez que c'est quand même vrai tout ce qu'on raconte. Enfin, la plupart des choses sont réelles à l'intérieur de ce conte et légende. C'est d'ailleurs ça la belle écriture d'Alexandre, c'est qu'il a, et c'est pour ça qu'il y a aussi ce petit fil rouge du conte du Petit Chaperon Rouge, c'est qu'il a mis une réalité factuelle extrêmement précise et concrète à l'intérieur d'un conte. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est souvent passé dans notre littérature et dans notre théâtre. Mais il le fait avec une espèce de netteté, d'évidence, voire d'efficacité assez remarquable.
L'efficacité, elle est là, et le mot est très bien choisi.
Sûr.
Ah oui, très bien choisi, parce que on découvre ce personnage, on l'a dit, François Genoux, que l'on ne connaît pas habituellement, même s'il a été étudié. Il y a eu des biographies, notamment on évoquait le travail de Pierre Péan, et là on découvre ça, puis on découvre aussi une réflexion sur l'idéologie, on découvre petit pan de l'histoire. Cette histoire-là, Jacques Weber, puisque vous êtes dans le cours de l'histoire, j'en sens bien que les cours d'école, au moment de l'histoire, Jacques Weber, très intéressé ou moyennement intéressé.
Vous savez, ce qui est formidable dans mon boulot, c'est que ça vous permet de rattraper le temps perdu, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui.
C'est-à-dire que... Mais pourquoi ? Parce qu'à l'école, d'abord, on m'a foutu en école d'adaptation, enfin, parce que j'étais soi-disant un taré ou un type attardé. Ce qui est d'ailleurs très possible. Bon. Mais j'étais atterré par la certitude de l'histoire. La certitude de la littérature. Il n'y avait jamais d'ouverture à notre réflexion, même une réflexion de gamin. Je ne supportais pas. Je n'avais pas envie qu'on me dise c'est comme ça et pas autrement. C'était déjà ça un petit peu dans ma famille. Donc je ne supportais pas que ça continue à l'école. Enfin, je crois que c'est ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance très vite de rencontrer des grands metteurs en scène. Et là, d'un seul coup, ça s'est ouvert. J'ai appris plein de choses. Et ça, c'est formidable. Et c'est comme ça que j'ai été à la rencontre très approximative de l'histoire. Mais quand vous lisez, vous parcourez les hommes de liberté de Manseron, par exemple, et que vous découvrez cette façon de voir le XVIIIe siècle, là, les prémonitions de la Révolution française, ben ça, c'est extraordinaire. Le petit Louis XIV de Claude Duneton, par exemple, vous souvenez, c'est magique, c'est formidable, et là, j'étais complètement à la cour de Louis XIV. Quand, d'un seul coup, parce que je crois que c'est important, mais je ne sais pas pourquoi, je vais voir la prise de pouvoir par Louis XIV de Rossellini, j'en apprends mille fois plus qu'un an de cours sur le XVIIe siècle, croyez-moi.
Ah oui, avec ici quelque chose qui relie le goût de l'histoire à la matière histoire, c'est-à-dire à la discipline scientifique. Parce que c'est du plaisir aussi l'histoire, et parmi les grands noms que vous avez pu croiser qui ont su transmettre le goût de l'histoire, il y a Robert Hossein.
Les pièces que nous avons choisies, c'est vraiment des pièces que j'avais terriblement envie de monter comme metteur en scène. J'en fais pas du tout des mégalomanies ou des velléités d'acteur, puisque je joue dans certains spectacles, mais pas du tout dans tous, et en tout cas pas dans Crime et Châtiment, parce que vous avez vu son importance, enfin, au point de vue nombre de gens, de décors et tout. Et non, j'avais horriblement envie de monter ça. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis horriblement, j'avais envie de monter Crime et Châtiment, parce que, en dehors du thème, qui me touche beaucoup, de l'œuvre de Dostoïevski, il y a matière à faire à la fois et un spectacle et en même temps un thème à traiter.
Tu m'attendais ?
Tout à l'heure, vous êtes passé à côté de moi dans la rue avec une telle angoisse dans vos yeux. Pardonnez-moi.
T'inquiète pas.
Non, c'est très touchant. Très touchant, c'est très drôle qu'ils disent horriblement, comme si ça signifiait que son envie de toucher à ce chef-d'œuvre le ramenait à une sorte de profond complexe qu'il avait de la connaissance et de la culture. Robert était un intuitif absolument prodigieux, mais vraiment tout à fait surprenant. Il n'était pas dénué de démagogie et de putasserie, pour soyons clairs, mais il y avait chez lui une générosité en tout qui était tout à fait flagrante. Et c'est vrai que il s'est emparé de Crime et Châtiment il a réussi. C'est très drôle. Un jour, Planchon a vu un de ses spectacles et elle a dit tiens, à propos des bas-fonds, Gorky aurait été dans la salle, il aurait aimé ça. C'était très amusant de la part de Planchon, qui était à l'opposé de l'esthétique de Robert Hossein. Mais c'est le Crime et Châtiment, d'en faire une grande fresque populaire, c'est de toute façon intéressant parce que le thème est tellement fort, l'histoire racontée est tellement forte, les mots sont tellement forts, à tout moment, que ce soit Marmeladov, que ce soit Porphyre, quel homme êtes-vous donc un homme comme les autres et vous aussi, ce qui compte, voyez-vous, ça n'est pas tellement le but, c'est le mouvement vers le but, tout ça, bah, vous frappe à la gueule. Alors, s'il y a de la musique de Morricone avant, franchement, c'est pas si... Enfin, moi, ça ne me gêne pas, parce que ça a été un énorme succès, Crime et Châtiment. C'était formidable.
Ouais, c'était dans les années 1970, avec Jacques Weber. Vous vous rendez compte, on arrive tranquillement, comme ça, à la fin de notre conversation. On n'a même pas cité Cyrano. Ça fait du bien, on n'a pas cité Cyrano.
Ça fait du bien, franchement.
Ça fait du bien.
Oui. Non, franchement, oui, parce que, oui, ça me colle à la peau. Alors, si étant dit, je ne le regrette ô combien pas. Ça a été une très, très grande aventure avec un homme merveilleux. Que Giorgio Strehler, je m'empresse de le dire à certaines personnes qui ont dit du mal de cet homme magnifique, Giorgio Strehler appelait Jérôme Savary El Poeto, le poète. Et Savary était un homme qui arrivait sur une place de village à 5h de l'après-midi, on lui disait une fois spectacle à 8h du soir, le spectacle était là et était magistralement poétique. Voilà.
Et puis c'est avec Cyrano de Bergerac vraiment un exemple type de... Alors, je sais pas si c'est le mot tradition qu'il faut évoquer, mais ce passage aussi, on le voit bien, hein, depuis Coquelin, avec la création de la pièce, avec tant et tant d'acteurs.
Vous savez, c'est l'ITI du théâtre, en fait. C'est une espèce de chose comme ITI de Spielberg. Ça touche tout le monde. Il faut pas oublier que c'est un vieux machin, Cyrano. En fait, c'est une vieille pièce. Au même moment, Ubu Roi d'Alfred Jarry est écrite. Mais c'est tellement bien fait. Foutu, c'est tellement généreux, c'est tellement volontaire dans ça n'a rien à voir avec le cocorico d'ailleurs. Enfin, mais réinvitez-moi et puis on fait une heure sur Cyrano, il y a de quoi raconter.
Ben oui, c'est ça. Avec moi, ce que je retiens de tout ce que vous dites là, c'est ça, c'est faire bouger les choses, créer de l'émotion. Mmh. Et moi, je suis vraiment très sensible à ça. C'est la même chose lors des visites de musées, lors des visites d'expositions. Ces moments uniques, on ne peut vivre ça qu'en étant là, à ce moment-là, et le théâtre, c'est vraiment ça.
C'est ça.
Et l'injuste, c'est ça. L'injuste, c'est, vous le ressentez, dans les réactions du public, avec des moments choqués face aux propos de François Junot.
Oui, vraiment, vraiment, il y a cette attention qui est due aussi beaucoup à l'écriture d'Alexandre, car c'est comme un thriller qui est là, qui se développe. Et ce support fait que, oui, vraiment, il y a une tension terrible, terrible. Et puis, les gens, au bout de 3-4 phrases, on rentre dans l'horreur, quoi. Et donc là, ça les stupéfie, quoi. Beaucoup me disent à la sortie, mais il n'a pas existé, ce monsieur. Mais si, madame, mais si, ce que je dis, et voilà. Ouais, c'est très étonnant. Cette friction avec la réalité est très, très intéressante.
On a évoqué en début d'émission cette émotion d'entrer sur scène, ce changement, la sortie de scène. On peut l'évoquer, vous quittez François Genoux en un claquement de doigts.
Alors je vais vous dire, je préviens toujours les habilleuses parce que moi j'adore les gens qui travaillent autour. J'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là. Je leur dis, je vous préviens, je suis le type le plus irrespectueux des loges. Je me déshabille à une vitesse totale, c'est en boule. Et puis à la sortie, pareil, je me rhabille, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. On va boire un coup, on va discuter, mais c'est fini. C'est très enfantin. Et ça, je serai toujours comme ça. Et je vous signale, il faut que je pisse dans le lavabo toujours à 8h15 avant, enfin 7h moins le quart avant de rentrer en scène. Ça, c'est... Et tous les spectacles, j'ai fait ça.
Le lavabo ?
Ah oui, 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 c'est très important.
C'est quasiment dégueulasse, mais je peux pas faire autrement. Je vous demande pardon, chers auditeurs.
Mais non, mais alors, j'aime beaucoup ça parce que ça conclut notre émission avec un lavabo et je ne l'aurais pas pensé. Voilà. Mais en réalité, ces pièces se concluent toujours par la même chose, Jacques Weber. Ce sont les applaudissements, bien sûr. Merci vivement à vous
merci
d'être
à vous,
venu pour le cours de l'histoire. Merci.
Merci.
Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Olivier Arnay, émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.